les bienfaits de Dieu. Les Anglais ont une belle phrase, des fois on prie et on ne sait plus trop par où commencer, puis là, ils disent « When you can't pray your way through, praise your way through. » Des fois, juste de louer le Seigneur, ça nous ouvre les yeux. Ouais, finalement, c'est pas si misérable. Et finalement, des fois, on peut être centré sur nous-mêmes, puis la louange nous amène à considérer Dieu, puis voir que, ouais, Dieu est là, puis il s'occupe de moi, puis c'est pas finalement tant que ça la fin du monde. Donc, c'est ça. C'est très salutaire et puissant. De compter les bienfaits de Dieu et de louer notre Dieu pour sa fidélité, sa bonté. C'est bon de se centrer sur Dieu plus que nous-mêmes. En général, là, je dirais que c'est un conseil assez simple et judicieux. Amen. Nous allons dans Jean chapitre 13, c'est notre texte. Et avant de lire, je vais vous donner l'introduction. Bon, je vais vraiment avancer dans le texte en tant que tel. À mesure que je vais développer, parce que mon introduction est courte. Donc, pendant que vous tournez là, je vais commencer simplement en priant. Seigneur, tu es celui qui se révèle dans ta parole, et comment tu te révèles ici d'une manière vraiment merveilleuse et puissante, et tu l'as fait avec une leçon d'objet, mais aussi tu as expliqué ce que tu faisais, et merci Seigneur que tu n'es pas un Dieu vague et flou qu'on ne peut pas connaître. Tu es le Dieu qui se révèle et qui ne se révèle pas juste non plus d'une façon impersonnelle et distante. Tu te révèles au cœur. Seigneur, révèle-toi au cœur de ton peuple ce matin et on prie aussi, on continue de te prier comme on l'a fait tantôt, de te révéler au cœur de ceux qui ne te connaissent pas encore. Merci que tu es ce Dieu qui a tant aimé le monde, qui a donné ton Fils unique, Jésus, afin que quiconque croit en toi ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, Seigneur, on veut s'en remettre à toi et te demander, Seigneur, que tu accomplisses tes desseins bienveillants que tu as prévus, Seigneur, avec ce temps qu'on prend maintenant à tes pieds. Au nom de Jésus. Amen. Je le disais tantôt, on est ici en Terre Sainte, on enlève nos souliers, la section qu'on commence à considérer aujourd'hui, les chapitres 13 à 17 de Jean, c'est ce qu'on appelle le discours de la chambre haute, haute et non pas autre. C'est son discours, c'est un discours simple quand même, je veux dire, il y a des vérités profondes et tout ça, mais il y a quand même une simplicité là-dedans, mais il y a une profondeur évidemment à ce qu'il dit, et c'est la révélation de son cœur. De vraiment son cœur envers ses disciples. Ici, on n'est plus dans le ministère public de Jésus où est-ce qu'il a appelé, hein, avec grande patience et persévérance, les gens à se tourner vers lui. Ici, il est dans l'intimité d'un repas avec eux autres. Le dernier repas, c'est la Pâque, c'est juste avant. En fait, c'est à peu près 24 heures avant la croix, là. Et on peut dire que les paroles qu'on va considérer aujourd'hui, c'est une auto-révélation. Il révèle qui il est à travers ça. Puis même aussi des choses qui sont à l'avenir, parce qu'il parle du Consolateur qui va venir. Donc, il va même au-delà de la croix. Il parle de la croix, mais il va au-delà de ça. Donc, c'est très précieux. Et on va voir dans notre texte qu'il y a comme un tremplin avec un geste très connu ici, évidemment. On l'a lu tantôt, mais quand il lave les pieds des disciples dans les versets 4 et 5, c'est riche en sens. On va voir ça ensemble. Et il ne fait pas juste faire le geste, il explique le sens du geste. Donc, on va tirer leçon de tout ça. Mais j'aimerais vous dire d'emblée, comme introduction, que ce geste que Jésus va faire, puis je vais l'expliquer plus en détail pendant le message, mais c'est une préparation parce que c'est un type de la croix. Vous allez voir que tout ce qu'il fait, c'est vraiment, ça l'illustre ce qu'il est venu faire sur la croix. Enfin, il prépare même de par son geste ce qu'il va faire ultimement sur la croix. Et donc, vraiment, Jésus s'occupe d'eux dans les moindres détails et d'une façon vraiment unique et puissante. Et c'est pour ça que même, parce qu'on même si on ne voit pas spécifiquement dans notre texte le fait qu'il parle de la croix, comme il l'a dit avant, le Fils de l'homme va être livré entre les mains des impies, on voit vraiment cette croix qui est présentée de différentes façons, de par le geste ici qu'on va considérer dans un instant, mais aussi par le fait que, par exemple, quand il leur parle de s'aimer les uns les autres, je vous donne un nouveau commandement, verset 34, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. Ben, la démonstration ultime de cet amour, c'est la croix. Donc, voyez-vous comment La croix, elle est là et on la voit vraiment qui est amenée ici. Puis j'aimerais qu'on voit, parce que selon le verset 1, on voit Jésus qui met le comble à son amour. Et on va lire justement le verset 1. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. J'aimerais qu'on regarde deux leçons fondamentales ici de Jésus qui met le comble à son amour. D'abord, le verset qu'on vient de lire, le verset 1, on voit là, c'est ce qui nous amène vers, on va considérer les versets 1 à 11, la leçon visuelle de ce comble de l'amour de Jésus. D'abord, au verset 1, on dit qu'il a mis le comble de son amour à son amour. J'aimerais juste ici vous expliquer que, bon, Dieu est amour, et Dieu, vu que c'est ce qu'il est, dans toutes ses voies, il exprime cet amour, mais ici, il y a un amour particulier, différent pour les siens. Sa dynamique est différente parce que elle suscite une réponse de leur part qui est différente. C'est un amour qui amène la réponse de l'amour. Et écoutez la phrase, je ne me rappelle plus où je l'ai pris celle-là, mais j'ai entendu ça. Jésus a fait certaines choses pour tous les hommes, mais il a fait toutes choses pour certains hommes. Fait qu'on voit vraiment ici qu'il est allé au max, il est allé au bout, et ces gens-là, qui sont l'objet de son amour spécial, ont eu la plénitude de son amour. Et ici, on en voit seulement une illustration, mais ça va beaucoup plus loin, évidemment, avec la croix. Et c'est vrai pour tous ceux qui appartiennent à Jésus, qui ont reçu Jésus comme leur sauveur personnel, ils ont des caractéristiques qui leur sont uniques. Ça nous dit dans la Bible, là, je vais vous prendre des versets sans vous donner toutes les références, mais je vais vous donner des caractéristiques de ceux qui appartiennent à Jésus. La Bible nous dit que Jésus, il les a choisis, qu'il s'est donné à eux et pour eux, que le Père les a donnés au Fils, que Jésus les a rachetés par son propre sang, qu'il les a conquis, et c'est spécial aussi de le voir comment qu'on voit, c'est un processus, quand on voyait Pierre tantôt qui s'opposait, puis justement, Dieu était dans la conquête de Pierre, parce que Pierre était, disons, celui qui exprimait tout haut ce que les autres disaient, pas nécessairement à voix haute, mais qui ressentait. Et donc, on voit ici vraiment la particularité de ces soins, de cet amour qu'a Jésus pour les siens. Et ça donne en réponse qu'eux autres, ils lui ont cédé leur vie, leur cœur, entre ses mains, ses bonnes mains, ou on pourrait le dire dans le terme de berger, sous sa sainte houlette. Et donc, c'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre que Jésus a mis le comble à son amour, c'est-à-dire qu'il l'a amené au point le plus loin. Il l'a amené à rebord, il l'a amené à sa plénitude. Et lorsqu'on met ça en contraste avec le verset qui suit, c'est assez frappant. Verset 2. « Pendant le souper, alors que le diable avait mis dans le cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer. » C'est fou comment on voit Jésus qui met le comble à son amour, puis en même temps, le diable qui est là et qui a mis dans le cœur de Simon de le livrer, de livrer Jésus. C'est tout qu'un contraste entre les deux motivations, n'est-ce pas? Mais je ne sais pas si vous avez déjà pensé à ça, mais les deux éléments fondamentaux de la nature de Satan, le mensonge et le meurtre. Bon, on les voit ici, il a mis ça dans le cœur. Ben, Judas vivait le mensonge parce qu'il avait ça dans le cœur, puis là, il ne disait pas à personne. Puis c'était des vues meurtrières, parce que c'était pas le livrer juste pour dire c'est lui, c'était pour qu'il soit tué, là. Donc, ce qui est de Satan, il l'a communiqué à Judas qui allait exécuter exactement ces deux choses-là, le mensonge et le meurtre. Donc, agir selon ça. Et cet homme, Judas, qui disait connaître Jésus, hein, il avait une certaine connaissance de Jésus, mais qui ne le connaissait pas réellement. Ici, je vais amener votre attention sur un verset que j'ai déjà dit dans le passé, mais que j'aimerais vous ramener. 2 Corinthiens 5, 16, ça dit « Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. » Il connaissait Jésus selon la chair. Il savait c'était qui et tout ça, mais il ne le connaissait pas intimement, relationnellement. Et ça nous dit aussi dans 1 Pierre au chapitre 1, versets 8 et 9, Vous l'aimez sans l'avoir vu. Vous croyez en lui sans le voir encore. Vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Quand on connaît le Seigneur, il y a une connaissance relationnelle, surnaturelle qu'on a de Dieu. Et j'espère que chacun ici peut dire qu'il connaît réellement le Seigneur Jésus. Ce n'est pas une affaire de religion, de cocher les bonnes cases, de dire les choses qu'on est supposé dire. C'est relationnel. Puis quand on connaît Dieu, Dieu nous fait connaître que c'est réel. Je ne veux pas être trop compliqué, mais il nous fait connaître qu'on le connaît. Son esprit qui est en nous. Qu'est-ce qu'il dit? Abba, Père. OK? Puis je pense que quand on regarde Judas ici, on est vraiment là assez... on est avancé dans le narratif là, de la passion, de tout ce qui est entré avec ce qui a amené Jésus à la croix. Je pense que ça faisait un bout que Satan travaillait Judas. Tu sais, qu'il était sur son cas, puis pour l'amener au point où est-ce qu'il est arrivé là. Et j'aimerais vous amener quelque chose ici de vraiment fondamental. On peut considérer deux personnes ici, parce qu'on les voit beaucoup dans notre texte, Judas, puis on va voir Pierre, hein, ça a ressorti dans la prière, Pierre qui ici qui s'oppose, hein, « Seigneur, tu me laves les pieds, mais non, hein, je ne veux pas te laisser faire ça, puis plus tard aussi, Seigneur, je ne vais pas te renier, je suis prêt à mourir pour toi. » On voit deux hommes qui, de toute évidence, ont une lutte interne intense où est-ce que le paradoxe de la croix est extrêmement difficile à accepter pour eux autres. OK? C'est quoi la différence fondamentale? Judas a pris les choses entre ses mains. Judas a pris le contrôle. Il avait peur comme Pierre, mais il a pris le contrôle. Pierre, tant bien que mal, et Pierre est loin d'être un exemple de perfection, qui a tout compris du premier coup, qui a fait tout ce qu'il fallait. Non, non, c'était en culbutant et en trébuchant. Mais, savez-vous quoi? Il avait peur, puis il a essayé de contrôler, puis tout ça, mais finalement, il s'en est remis à se placer sous l'autorité, le contrôle de Dieu. C'est ça la différence fondamentale entre les deux. Un qui a pris les choses en main, l'autre qui s'est laissé finalement, oui, aller dans les mains de Dieu. Comme même, on va le voir dans notre texte dans un instant. OK, Seigneur, je te dis, OK, même vas-y, lave-moi les mains puis la tête. OK? Donc, c'est ça la différence entre un Judas et un Pierre. C'est pas qu'il n'y avait pas... Les deux luttaient, les deux avaient une lutte intense, forte face au paradoxe de la croix. Hein, le Fils de Dieu qui meurt dans les mains des impies. Puis c'était ça les deux là, qui ne marchaient pas pour eux. Mais on voit vraiment la différence, c'est avec cette peur de se laisser sous le contrôle de Dieu ou de prendre le contrôle. On continue au verset 3, on peut dire « Jésus savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu. » N'est-ce pas spécial que Judas qui voulait prendre les choses en main, ici on voit Jésus qui lui s'était fait remettre tout entre ses mains par le Père. Et là il y a une différence, il y a un seul homme sur la planète Terre, dans l'histoire de l'humanité, qui peut avoir toutes choses entre ses mains. Et c'est le Seigneur Jésus. Nous, on n'est pas fait pour ça. Ce n'est pas dans le plan créateur, ce n'est pas dans le plan rédempteur. Le seul qui peut prendre toutes choses, qui en est digne, qui est capable de prendre et de gérer toutes choses, c'est Jésus. D'ailleurs, n'est-ce pas aussi ce qu'on voit dans le livre de l'Apocalypse, lorsque le livre qui est ouvert et que la foule s'écrie et chantait un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. » Jésus est digne de prendre tout entre ses mains. Pourquoi? Parce qu'il est le seul et unique qui est venu accomplir cette mission rédemptrice de la croix. Et ce n'est pas nouveau pour Jésus d'avoir tout comme ça entre ses mains. Dans le chapitre 3, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais au verset 35, on a vu que le Père, Jésus a dit lui-même, là, le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Donc, ce n'était pas nouveau, c'était vraiment le modus operandi pour Jésus dans sa mission rédemptrice. Mais je pense qu'à ce moment précis-là, pour Jésus, alors que lui aussi vivait toute cette tension-là, évidemment pas comme les autres parce qu'il est Dieu fait homme, mais lui aussi vivait tout ce moment, cette ascension là, vers la croix qui était où la tension montait, puis aussi il était de plus en plus incompris et laissé seul, évidemment jamais par le Père. Mais à ce moment précis, il se rappelait de ces vérités-là comme des rémas, comme des vérités qu'il pouvait chérir dans son cœur. Et n'est-ce pas pour nous tellement vital, lorsqu'on est éprouvé par l'adversité, les épreuves, les moments qui nous sortent de la zone de confort, de ce qu'on peut comprendre, puis expliquer, puis c'est bon de se ramener à la parole. C'est pour ça que Pierre dit dans son deuxième épître, « Je ne me lasse pas de vous répéter les mêmes choses, même si vous les savez. » Pourquoi? Pour que vous soyez affermis dans la vérité présente. Lorsqu'on se rattache à la parole, même si on connaît ces choses, tu sais, ça fait un bout qu'on roule notre bosse comme chrétien, il y a des versets puis des vérités que c'est pas nouveau, mais quand on les rafraîchit à notre cœur, ça fait le ministère du Saint-Esprit va amener ce réconfort, ce baume sur le cœur dont on a besoin. OK? C'est l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Et là, ben, on voit le fameux geste, versets 4 et 5. Jésus se leva de table, ôta ses vêtements, et il prit un linge dont il se saignit, et ensuite il versa de l'eau dans un bassin. Il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il s'était saint. Ici, c'est une illustration physique là, ou pratique du fait que ce que Jésus est juste sur le point de faire. Okay, la croix, son heure, donc, comme il a référé. Jésus, ici, il s'abaisse, parce que je vous rappelle que le rôle de laver les pieds des gens dans une maison, c'était le plus bas des esclaves. Non seulement un esclave, mais le plus bas parce qu'il y avait des rangs là, dans les esclaves. C'est pour ça que dans un épître, ça dit « Quartus te salue », mais c'était esclave numéro 4. T'sais, il y avait 1, 2, 3, 4, puis souvent, il ne le donnait même pas des noms, juste des numéros. Mais Jésus prend cette position du plus bas des esclaves pour servir d'une manière humble. C'est ça qui c'est comme c'est un choc pour les disciples ici qui disent « Qu'est-ce qu'il fait là? » C'est comme, c'était vraiment, c'était provocateur, je dirais, tu sais, pour, pas parce qu'il voulait provoquer juste dans le but, mais ce geste avait tellement une signification forte que ça les a heurtés dans leur compréhension des choses. Et bien que ça soit humble comme un serviteur, Jésus n'agissait pas comme une victime, mais vraiment en victorieux. Il n'agissait pas dans la faiblesse, mais avec pleine autorité. C'est quand même, là aussi, il y a un certain paradoxe. Jésus le faisait de son propre chef, de lui-même, pas parce qu'il était contraint, puis parce que, non, c'est vraiment ici lui qui se levait comme ça, avec cette leçon puissante qu'il donnait à ses bien-aimés. Et Jésus, évidemment, était bien confiant de qui il était, de qui il avait envoyé, de pourquoi il était venu. Et justement, c'est dans ce but-là qu'il faisait ce geste pour communiquer ce qu'il s'apprêtait à faire ultimement, la croix. Puis je vais vous expliquer pourquoi ça nous pointe tellement à la croix. Et donc, Jésus, ce n'est pas en dépit de ses origines divines qui s'est comme ça abaissé, qui a lavé les pieds des disciples comme le plus bas des esclaves, mais c'est à cause de la conscience qu'il avait justement de son origine, de sa destination qu'il le faisait. Pourquoi? Parce que Jésus agissait en serviteur de la vérité. Jésus agissait totalement en harmonie avec ce qu'il était venu faire. La mission messianique, c'était ça. OK? Puis, parce que Jésus, savez-vous quoi? Il aurait pu, pour prendre la leçon, il aurait pu demander à un esclave, « OK, lave les pieds des disciples, puis là, enseigner la leçon. » Il aurait pu faire ça. Puis on aurait pu dire, « Ben, la leçon aurait été valable. » Mais lui-même, il y a vraiment quelque chose là-dedans que lui le fait, c'est fondamental. Puis là, j'aimerais vous expliquer vraiment ici l'image, là, la portée de ce qui est là ici, comment les actions parlent plus fort que les mots. Mais regardez la symbolique, je vous l'explique bien simplement. Ça nous dit que Jésus s'est levé de table, OK? Puis d'ailleurs, tu sais, il était confortable, il avait un repas, puis là, il se lève de ça, tu sais, de sa position de confort. N'est-ce pas que la Bible nous dit que Jésus a quitté le ciel, cet endroit de félicité éternelle, il a quitté le ciel de confort pour venir ici-bas sur terre. Voyez-vous déjà un premier parallèle? Il s'est dépouillé de son vêtement. En passant, là, il faut comprendre, il ne s'est pas mis tout nu, là, OK? Mais il a enlevé son vêtement extérieur, là. Il était encore très, il était décent, là. Il n'y avait pas de nudité ou de, OK? Juste pour comprendre. Mais il s'est dépouillé de son vêtement extérieur pour prendre, dans le fond, pour se couvrir de l'attirail d'un esclave. Et c'est comme la kénose, hein? Jésus a mis de côté sa gloire, certains attributs divins pour prendre la forme d'un serviteur, comme ça nous dit dans Philippiens au chapitre 2. Hey, ça va encore plus loin. Il a versé l'eau dans un bassin pour leur laver les pieds, comme il a versé son sang précieux pour nous laver de nos péchés. Voyez-vous, le parallèle ici, a vraiment, c'est une leçon d'objet. Puis quand il a fini, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est rassis. Parce qu'il avait complété sa tâche. Qu'est-ce que la Bible nous dit, hein? Jésus, une fois qu'il a accompli la purification des péchés, il s'est assis à la droite de Dieu dans les lieux célestes parce que tout est accompli. Donc, vous voyez ici, l'image que Jésus ici utilise nous pointe en tout point à ce qui était sur le point de faire à la croix. C'est un préparatoire, une image, une ombre de la croix, si vous voulez. C'est une image vivante, concrète, pratique et convaincante. Et c'est pas étonnant qu'il y ait tu sais, le porte-parole, le Pierre, là, souvent qui parlait pour les autres, c'est pas étonnant qu'il y ait une réaction comme ça, parce qu'il a bien compris, il a tapé, tu fais vraiment quelque chose ici qui dépasse ce que nous, on pourrait accepter. Donc, quand il est allé à Simon, verset 6, il vint donc à Simon-Pierre, et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, il reconnaît qui il est, tu me laves les pieds. » Donc, il est outré de ça, il exprime tout haut ce qui est dans son cœur. Ben voyons donc, toi, tu es le Seigneur, puis tu prends cette position d'esclave. Et on continue au verset 7, où est-ce que ça dit? Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » C'est vrai qu'il ne comprenait pas, là. Mais il allait le comprendre bientôt. Après la croix, la résurrection, puis Pierre lui-même, dans son premier épître, dans Pierre 5:5, il dit, « Revêtez-vous d'humilité. » Pierre est celui qui parle d'humilité d'une façon tellement unique que tu vois que lui, là, c'est une leçon qu'il a compris, qui est gravée sur son cœur. Vous lirez un Pierre, là. Puis Pierre, quand il parle d'humilité, on voit que c'est pas juste une théorie, quelque chose qu'il a appris de quelqu'un d'autre. Il l'a appris dans sa propre peau, puis ça paraît. Et donc, effectivement, il ne comprenait pas là, mais Dieu lui a fait comprendre de façon très pratique, bien au-delà du geste ici qu'il est en train de faire. Début du verset 8, Pierre lui dit... « Non, jamais tu me laveras les pieds. » Ici, l'objection de Pierre, c'était pas une rébellion, mais c'est « Hey, je peux pas accepter que toi, que je reconnais comme maître, puis comme celui qui est mon autorité, hein, c'est pas acceptable comment moi je vois les choses que tu te places comme ça, comme un serviteur. » Okay? Puis, for the record, là, je pense qu'il parlait au nom du groupe. Parce que Pierre est souvent le porte-parole, n'est-ce pas, là? Je pense que pas mal toutes les autres vont dire, c'est quoi qu'il fait là? Rien, ça se peut pas. Mais bon, Pierre étant ce qu'il est, il l'exprime tout haut. Deuxième partie du verset, Jésus lui répondit, si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Oh, OK, là, c'est comme non négociable, là. C'est... Donc, la réponse de Jésus est sans ambiguïté. Il y a vraiment ici une image de la purification des péchés. C'est pour ça que je vous dis que ça pointe à la croix. Puis évidemment, ce n'est pas ce geste-là qui les a lavés de tous leurs péchés, là. C'est la croix. Mais on est vraiment ici dans la symbolique de ce que ça veut dire. Et comme justement ça dit dans 1 Jean, son sang nous purifie de tout péché. Puis bon, toute la symbolique est bonne ici. Et on continue au verset 9. Simon-Pierre lui dit, fait que là, toujours dans la même dynamique de la conversation, Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains, la tête. » Je ne sais pas si vous le comprenez, celle-là, mais là, tu sais, c'est à l'écrit, c'est dur à voir, mais dans le fond, il était les deux un face à l'autre, puis là, Jésus est en position pour laver les pieds, il s'oppose. Mais une fois qu'il comprend, puis dans le fond, il acquiesce, puis il dit « OK. » »« Ah, ben OK, Arline, comme mon frère disait, ben je vois Arline, ben lave-moi pas juste les pieds, là, mais vas-y, lave-moi les mains puis la tête. » Tu sais, ça, c'est du bon Pierre tel que tel, là. Tant qu'à y aller, on va y aller en ligne. C'est vraiment ça ici l'idée de ce que le verset communique. Là, vu qu'il avait compris, il dit, bon, on y va à fond. À fond les manettes, comme ils disent nos cousins. De la France, vous savez, là. Verset 10, Jésus lui dit, celui qui est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Vous êtes pur, mais non pas tous. Il y a un sens théologique ici bien clair de la réponse de Jésus. C'est-à-dire, ça ne marche pas au mérite, puis OK, toi, tu es plus lavé, puis tu dis, non, si je te lave, tu es pur. Parce que l'autre, tu sais, c'est comme plus, moins, puis OK, on pourrait même faire un certain parallèle avec la sanctification par les œuvres. Je ne vais pas prendre de change, je vais en faire plus. Mais non, tu es soit pur ou impur, tu es soit lavé ou pas lavé, tu es soit sauvé, pas sauvé. Tu sais, c'est comme all-in ou pas pantoute, là, OK? Puis, il faut comprendre ici, avec Jésus, c'est pas selon nos mérites. Jésus, il n'exige pas des mérites de notre part, quoi que ce soit, qu'on fasse quelque chose pour essayer de mériter d'être pardonné, d'être purifié, mais de se recevoir ce que lui a fait. Évidemment, on sait que c'est comme ça que la vie éternelle commence, comme ça qu'on reçoit Jésus. Je ne peux pas me sauver moi-même. J'ai besoin d'être sauvé. J'ai besoin que l'action vienne de l'extérieur. Je ne peux pas être l'initiateur de mon salut. J'ai besoin de recevoir le salut de Dieu. J'ai besoin de recevoir ce que Jésus a fait à ma place, pour moi. OK? Et c'est vrai pour le salut, évidemment. Mais aussi vrai pour les chrétiens, les enfants de Dieu, pour la sanctification. Et ça aussi, c'est sorti dans le temps de prière. Puis ça dit dans la Bible, hein, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus, marchez aussi en lui. Comment on l'a reçu? Par la grâce au moyen de la foi. Donc comment on marche en Jésus? Par la grâce au moyen de la foi. Donc c'est pas comme si une fois qu'on est sauvé, là, il faut pédaler fort. Non, c'est par la grâce au moyen de la foi. La force de la vie chrétienne, c'est la foi qui s'attache à Dieu. La foi vivante, la foi qui obéit au-delà de justement tout ce qui, des fois, ne fait pas de sens pour nous autres. OK? Puis je crois qu'ici aussi, ce que ça veut dire pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, de laisser Jésus nous servir, des fois, c'est là que c'est le plus difficile. Dans la mentalité chrétienne, là, Seigneur, je veux donner mon meilleur, puis tout ça, puis ça fait comme pas de sens de voir les choses autrement. Mais c'est d'avoir l'humilité d'accepter que Dieu nous serve et de reconnaître que c'est de l'orgueil d'essayer de faire autrement. Parce que souvent, ce que Dieu, comment il fonctionne, comment il travaille avec nous autres, ça ne marche pas nécessairement dans ce que nous, on aurait fait, ce que nous, on penserait, mais l'humilité de dire, « OK, Seigneur, je me confie en toi. Tu as décidé que c'était ça, je l'accepte. » Par exemple, des fois, servir Dieu, ça veut dire d'accepter de souffrir alors qu'on n'a pas nécessairement fait quelque chose de mauvais ou de quelqu'un qui est vraiment, qui est haïssable, qui mérite pas qu'on lui donne un bon traitement. Puis Dieu nous dit, je veux que tu souffres pour cette personne-là, je veux que tu sois un canal de mon amour, puis que tu me laisses faire. Oh là, c'est plus dur, hein, de laisser Dieu faire, puis là, on pourrait essayer de compenser, essayer de faire d'autres choses, puis tout ça, mais non, Dieu nous dit, non, je te demande ça. Puis t'es pas capable, mais moi, je suis capable. C'est là qu'il faut s'humilier, puis dire, oui, je suis pas capable, mais Dieu, t'es capable. Autrement dit, le service chrétien authentique commence par notre volonté et notre disposition à laisser Dieu d'abord nous servir. En disant, Dieu, je ne suis pas capable, il faut que tu me donnes la grâce. Je ne suis pas capable d'aimer cette personne-là. Je ne suis pas capable de pardonner. Je ne suis pas capable d'avoir la motivation pour quelque chose comme ça que tu me demandes. Mais toi, tu es capable. Donc, l'orgueil se dit, moi, je suis capable. Puis, c'est de l'incrédulité. L'humilité, c'est, je ne suis pas capable, mais toi, Dieu, tu es capable. L'humilité avec la foi. Ça va ensemble. Ou peur, contrôle, là. Quand j'ai peur, au secours, je ne suis pas capable, puis tout ça, puis là, j'essaie de m'en sortir, puis prendre le contrôle. Mais l'humilité, c'est je ne suis pas capable, mais Dieu, toi, tu es au contrôle, puis je me place sous ton contrôle. OK, tu me l'as dit, je dois te faire confiance. Je t'obéis, même si ça ne me tente pas, même si ça ne fait pas de sens. OK? C'est ça, l'obéissance de la foi. Et ça nous dit au verset 11, pour finir ce point-là ici, sur la leçon visuelle de l'amour de Christ. Car, là ici c'est Jésus évidemment, car il connaissait celui qui allait le livrer. C'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Est-ce que tu peux dire que tu es pur ce matin? Pas devant moi, pas devant les hommes, mais devant Dieu. Parce que Jésus le sait, lui. On ne peut pas y faire désaccroire. Et savez-vous c'était qui? Parce qu'évidemment ici ça parle de Judas. C'était qui le pire ennemi de Judas? C'était Judas. Parce que il s'était trompé lui-même tout ce temps-là, puis ça a fini par être manifesté, mais comme je disais, c'était pas d'hier. Non seulement c'était pas d'hier que Satan avait son œil sur lui, mais aussi que lui-même se trompait. Et finalement, là, ici, c'était manifesté. Donc, ça m'amène au deuxième point ce matin, dans les versets 12 à 17. Non seulement on a une leçon visuelle ici, mais là, on va voir la vision, la leçon auditive. Jésus, là, il va leur donner vraiment la leçon de tout ce qui est en train, de tout ce qu'il vient de faire. D'abord, au verset 12, on peut lire. « Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que j'ai fait? » On s'entend-tu? La réponse est évidente. Ils n'ont pas compris. Là. Okay? Il y avait tellement là-dedans, OK? Mais je vais amener un point ici. Qu'on se pense pas bon, puis ah, ben nous, on comprend. Puis tout ça. Savez-vous quoi? Il y a quelque chose ici, juste qu'on voit, c'est bien simple. Évidemment, ici, on peut dire que la réponse, c'est non. Mais pour nous, là, qu'on comprenne que certaines leçons, certaines choses que le Seigneur veut nous apprendre ne s'apprennent qu'à l'école de l'humilité. À l'école de l'échec, à l'école de la souffrance. Où est-ce qu'on rencontre, pour nous-mêmes, là, qu'on se rend compte, la chair, ça ne sert à rien. Ma bonne volonté, là, puis vraiment, ma sincérité, it doesn't cut it. Ça fait pas le poids. Ça fait pas le poids. Ça serait la bonne traduction. Et ici, voyons que Jésus, qui est le maître ici, là, parce qu'il va leur dire dans un instant, ben, le Saint-Esprit est le consolateur, un autre de la même nature et le même qui nous enseigne aussi, en ce moment, les leçons d'humilité. Et sur mesure, Dieu est personnel. Puis les leçons que Dieu veut nous enseigner, puis je le dis souvent, ne s'apprennent pas sur un banc d'église le dimanche matin, malgré que c'est important d'être sur un banc d'église le dimanche matin puis s'exposer à la parole de Dieu. Mais l'école d'humilité, c'est lorsque Dieu nous éprouve sur ses vérités. Puis que là, il les fait rentrer dans notre cœur. Comprenez bien. J'espère que dimanche prochain, je vais avoir du monde à l'église. Là. Parce que j'ai dit, vous n'avez pas besoin. Mais on a besoin de cette école de l'humilité, de l'échec, de la souffrance, de ces choses-là. On continue verset. On va lire d'un trait les versets 13 à 15. « Vous m'appelez maître et seigneur. » Évidemment, c'est Jésus qui parle. « Et vous dites bien, car je le suis. Si donc... Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » Là, je vais le dire tout de suite pour juste clarifier. Là. Jésus n'est pas en train ici d'enseigner un culte, une pratique qu'on doit absolument faire. Okay? Je vais l'expliquer un peu justement avec l'attitude qu'il veut nous enseigner, mais il y en a qui font ça, là. À un moment donné, quelqu'un avait demandé à M. Cotin en arrivant à l'église, « Est-ce que vous lavez les pieds, vous autres? » Il dit, « Ah oui, moi, je me lave les pieds à deux fois que je prends ma douche. » Mais bon, vous savez ce qu'il voulait dire, mais c'est ça. Il y a certaines églises, c'est assez fringe, c'est assez... il n'y en a pas beaucoup, là. Comment? C'est marginal, c'est assez marginal comme nom, mais bon, en tout cas. Mais je veux juste clarifier ici que ce n'est pas ce dont il est question. Mais c'est vraiment ici, c'est une leçon, ce que Jésus leur parle, lui, le Seigneur et le Maître, qui les sert, c'est vraiment l'attitude. Ou pour faire un parallèle biblique, ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Puis c'était quoi ces sentiments-là? Ben, lui qui est en forme de Dieu, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée. C'est cette attitude-là, phronéo. Le sentiment en français, en anglais, ça dit mind. D'autres vont dire attitude. L'idée, c'est notre disposition de cœur. Face à l'autre, face à ce que Dieu nous envoie. OK? Il y a cette disposition d'humilité dans les actions mutuelles qu'on a les uns envers les autres. Et donc, la question centrale ici, avec ce que Jésus a fait, OK? Parce que là, il a donné sa leçon visuelle, puis là, il en tire leçon, je suis le maître et tout ça, puis là, je vais vous donner un exemple, qu'est-ce qu'on vient de lire. La leçon centrale de ce qu'il nous communique ici, c'est notre volonté ou notre disposition, notre attitude à s'abaisser nous-mêmes et accepter de l'être. Des fois, c'est volontaire, des fois, ça ne l'est pas. Des fois, Dieu nous fait passer par l'abaissement. Il nous brise. Il brise notre volonté, nos plans, OK? Est-ce que j'ai cette attitude qui l'accepte, qui l'embrasse? Pas qui rejette puis qui juste pour dire, mais vraiment... Puis là-dessus, la parole s'explique par la parole. Je vous lis deux passages que j'ai retenus sur l'humilité. D'abord, dans Romains, chapitre 12, versets 3 à 5. « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Et évidemment, je ne pourrais pas passer à côté de Philippiens chapitre 2, les 5 premiers versets. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez-moi joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres, ayant en vous les sentiments, l'attitude qui était en Jésus-Christ. Donc, on comprend ici que Jésus veut vraiment communiquer une attitude. Il ne fait pas juste instaurer une nouvelle pratique, il leur communique ici l'attitude qui doit nous animer les uns envers les autres. Lui, le maître, c'est comme ça qu'il agit envers eux. C'est comme ça qu'il nous appelle à agir les uns envers les autres. Puis évidemment, comme je vous dis, ça c'est l'ombre de la croix, l'ultime, ça va jusqu'à la mort parce que Jésus est mort pour eux autres. Okay? Ici, ça préfigurait, mais l'ultime signification de tout ça, on le prend dans la croix. Et le Saint-Esprit de Dieu, c'est celui qui va nous enseigner l'humilité. Par la façon qu'il nous dirige, les circonstances qu'il permet, ou qu'on peut dire que le Père nous envoie. Et donc, le Père et le Saint-Esprit travaillent pour que l'actualité de la rédemption du Fils puisse être vécue dans notre vie, dans notre quotidien. Et c'est là vraiment, c'est là la sanctification. On peut s'endurcir le cœur, regimber, puis dire que c'est pas juste, ou justement s'humilier, s'abaisser, et dire « Ok Dieu, c'est ce que tu as décidé ». Pas toujours facile, c'est facile sur un banc d'église, comme j'ai dit, mais des fois, ça vient nous chercher d'une façon « Ouf! Comment ça, Dieu, t'a décidé ça? » Parce qu'il est Dieu, puis parce qu'il sait ce qu'on a besoin. Puis il sait exactement comment s'y prendre avec nous autres. Ça mène à conclure avec les deux derniers versets pour notre texte ce matin, versets 16 et 17. « en vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. » C'est les dernières paroles de notre texte ce matin. Et je voudrais juste vous dire, dans le fond, c'est beaucoup plus facile de critiquer les pieds sales des autres que de les laver. Peut-être une petite leçon pour nous ce matin. C'est facile de voir les gros orteils toutes sales du monde, puis tout ça, qui dépassent de leurs sandales. Mais les laver, c'est une autre affaire. Fait que si Dieu me dit, « il y a donc bien les pieds sales », puis Dieu me dit, « Ouais, OK, va y laver. » Ouf! Il y a comme justement une pratico-pratique à comprendre ici là-dedans. Il y a vraiment quelque chose là-dedans. Parce que c'était ça, là, littéralement, c'était ça. Il y avait les pieds sales, puis c'est vrai que les tu sais, je veux dire, c'est pas juste des belles paroles que je vous dis ce matin. Là. C'était vraiment ça qui arrivait. Les gens avaient les pieds tout sales parce qu'ils avaient été dehors, puis tout. Puis Jésus dit, bien, il faut que vous soyez prêts à faire ça. Et ça, c'est l'humilité. Et comme je vous dis, lorsqu'on apprend Christ, on apprend cette disposition à accepter de souffrir pour le bien, puis le péché des autres, orteils, sales inclus. Okay? Donc, au lieu de rechercher à se juger puis à se condamner dans nos relations mutuelles, pourquoi on ne recherche pas plutôt à se restaurer et à se servir les uns les autres? Et ici, la signification du verset 17, ça veut dire que le bonheur, là, tu sais, Jésus, quand il dit au verset 17, « Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, donc le bonheur, pourvu que vous les pratiquiez. » Donc, ce que ça veut dire, c'est que le bonheur n'est pas d'avoir les choses comme on veut qu'ils soient, comme on ressent les choses, mais le bonheur est dans le fait d'accepter par humilité et foi de comment Dieu nous les envoie. Ça, c'est le bonheur. Vous êtes heureux si vous les pratiquez. Autrement dit, si vous acceptez ce que je vous envoie, parce que tout ça, c'est une leçon d'humilité, là. OK? Donc, le bonheur, c'est pas d'avoir les choses comme on voudrait ou de les avoir faciles, c'est d'accepter comment Dieu nous les envoie. C'est ça le bonheur. C'est pour ça que ça prend l'humilité puis la foi. Puis c'est de croire, justement, que c'est ça le bonheur. Qu'il y a un bonheur d'accepter de souffrir pour le bien puis les péchés des autres. Essayez de vendre ça, voir dans une église puis ramasser 6000 personnes. Le bonheur, c'est d'accepter de souffrir pour le bien puis le péché des autres. Mais est-ce que j'ai l'air du gars qui a inventé ça puis est-ce que je tire le sens du texte pour... Moi, je pense que c'est vraiment ce que Dieu ici communique. Le vrai bonheur, c'est pas d'avoir la prospérité, puis que tout va bien, puis je suis jamais malade, puis tout le monde m'aime, puis tout le monde est gentil. C'est comme Christ, de venir dans un monde tout brisé, déchu, puis d'être un instrument dans ses mains rédemptrices en se laissant faire. Parce qu'on dit « Wow, Dieu, t'es donc bien extraordinaire! » Puis, je vous donne une illustration, je l'ai partagée mercredi, mais tu sais, des fois, Dieu permet des choses dans notre vie où est-ce que tu dis « Wow, ça, c'est un moment de Dieu! » Puis je vous le mets très, très simplement. Mardi dernier, au matin, j'ai eu un rendez-vous divin, vraiment, avec Dieu a mis devant moi un homme qui souffrait beaucoup. Un deuil qui tu sais, un deuil, c'est des étapes, hein? Tu sais, il y a les funérailles, puis après ça, tu sais, il y a toutes sortes d'étapes dans un deuil, puis on ne peut pas brûler d'étapes. Puis lui, ben étant incarcéré, il y a des étapes qu'il n'a pas pu passer, puis même celle de pouvoir être transparent, puis de parler, puis... Tu sais, des fois, là, quand tu as l'eau sur le corps, de parler à quelqu'un, puis bon. Fait que là, littéralement, j'étais vraiment la première personne après plusieurs mois... OK, sa mère, c'était pas juste quelqu'un de main. Sa mère qui est décédée à la fin 2024. Là, vraiment, elle pouvait m'en parler puis s'ouvrir. Puis, je veux dire, aussi être vulnérable, là, ce qui n'est pas possible dans une prison à un pénitencier à sécurité maximum. Puis, je dis, pourquoi c'est un moment de Dieu? Bon, parce que, oui, OK, il a pleuré puis il s'est exprimé puis il a tout ça. Mais aussi, c'est de voir avec la parole de Dieu. J'ai amené des versets dans Ésaïe 61, Ésaïe 55, 6 et 7, puis de voir son visage, ping, allumé, de « Hein! » Il y a de la lumière au bout du tunnel. Il y a quelqu'un qui m'aime, puis qui se soucie de moi. OK? Puis, pour moi, c'était vraiment en dehors de la zone de confort. Quelqu'un que je ne connais pas, que si j'ai dit... Puis là, savez-vous quoi? Dieu ne me demandait pas de dire grand-chose. Toute la première partie de notre rencontre, j'ai pratiquement rien dit. Amener le monsieur juste levé, puis je l'ai comme ça, je l'ai consolé, tu sais. J'ai pleuré avec ceux qui pleurent, puis j'étais, OK. Puis après ça, j'ai juste amené, puis là, je priais, Seigneur, tu sais, c'est quoi tu veux, j'ai amené ça. Puis, moi, j'ai pas souffert beaucoup, mais dans le sens, c'était hors de ma zone de confort, qu'est-ce que je fais là, tu sais, puis t'sais, moi, je voulais y donner Jésus, là. Ben, j'ai donné Jésus dans Ésaïe, puis c'est incroyable la différence. Fait que, tu sais, Dieu, des fois, il nous fait passer par des chemins, mais par où, c'est quoi tu veux que je fasse, Seigneur, puis c'est quoi, puis. Dans le fond, tu sais, souffrir pour le bien et le péché des autres, c'est pas tout le temps de la grosse souffrance. Là. Des fois, c'est juste un malaise, on sait pas trop. Mais quand nous, on se place sous Dieu comme ça, puis on se laisse diriger, là, on voit Dieu. Fait que moi, ma grande récompense, cette fois-là, là, c'était de voir Dieu à l'œil. C'était que, waouh, ça, là, c'est un moment de Dieu. Fait que c'est ça, la récompense. Lorsqu'on accepte de s'humilier, d'être abaissé, d'être brisé, puis qu'on se place sous Dieu comme ça, la récompense, c'est de voir Dieu. Dieu, c'est notre récompense. Hey, wow! Ça ne s'explique pas humainement. Dieu, là, tu t'es manifesté. Là, je vois vraiment quelque chose de toi qui m'émerveille. Ça nous aide à rester émerveillés devant notre Dieu extraordinaire. Puis un dernier mot, parce que des fois, comme je vous le dis, là, on est assis sur un banc d'église, puis on ne sait pas ce qu'il y a devant nous autres, puis qu'est-ce que le Seigneur prépare pour nous, mais est-ce que tu es prêt à être incompris, à être rejeté, à pas être reçu avec toi les bonnes dispositions que tu as, comme si justement tu avais des bonnes dispositions, mais plutôt d'être vu comme quelqu'un qui a un agenda, quelque chose? Parce que, n'est-ce pas que les événements de cette semaine aussi nous montrent ça? On est dans un monde incompris, un serviteur du Seigneur qui voulait essayer de rapprocher, de dialoguer, de parler, s'est fait froidement tuer, inhumainement, puis comme aussi même les choses. Mais c'est la voix de Christ, hein? Lui, il venait parfaitement, dans un amour parfait, puis était incompris, abandonné, méprisé des hommes. Et ça encore, je vous dis, c'est pas très vendeur, mais c'est à ça que Christ nous appelle. Il nous a laissé un exemple pour qu'on suive ses traces. Mais qu'on n'aille pas les yeux sur le rejet, le mépris, mais sur la récompense. Christ est notre récompense. Puis des fois, quand tous les hommes nous rejettent, puis qu'on est incompris, la présence de Dieu, sa grâce qui est là, est tellement précieuse que on voudrait pas échanger ça pour rien au monde. Et je termine avec cette illustration. Vous connaissez les Taylor, Anthony Taylor, qui était missionnaire en Chine. Et ça nous dit dans sa biographie qu'à un moment donné, Madame Taylor était seule à la maison ben, avec des gens là, de la mission avec eux autres parce que les maris, les hommes étaient partis. Puis là, il y a eu, en tout cas, concours de circonstances, une attaque. Ils se sont fait attaquer. C'était juste les femmes. Là, fait que là, c'était plus justement un moment de vulnérabilité. Ou est-ce que c'est un peu la, tu sais, une mentalité de foule? Des fois, ça devient fou. Là, parce qu'il y avait quelqu'un qui avait lancé une fausse rumeur. Ah, les Taylor vont vous donner plein d'affaires, puis tout ça, à tel jour. Puis là, c'était pas vrai. Fait que là, les gens ont saccagé la maison en voulant dire on va aller prendre ce qu'ils ont, puis OK. Puis là, on pourrait dire, hein, c'est incroyable. Fait que là, ils sont littéralement retrouvés, là, avec. Ils sont même fait enlever du linge dessus le dos, là. Vous dire que la violence, puis la maison, tout à l'envers. OK? Mais savez-vous, c'était quoi le compte-rendu de Mme Taylor après ça? Elle a écrit une lettre missionnaire, comme on en reçoit ici, puis elle a dit, puis c'était des Anglais, donc elle a écrit en Angleterre, elle a dit, tout l'or de l'Angleterre n'aurait pas était comparable au moment de gloire d'avoir vu qu'on était jugé digne de souffrir pour le nom de Christ. Ça, c'est un moment de Dieu. Ça, c'est... Comment t'expliques ça? C'est pas qu'elle se glorifiait, oh wow, non. C'est comme, Dieu était là. Puis sa grâce, puis sa présence. C'est ça, d'accepter de souffrir pour le bien puis le péché des autres. Savez-vous quoi? Ça faisait partie de la semence de l'évangile que Dieu plantait en Chine, avec la mission intérieure de Chine. Savez-vous quoi? Il y a eu des répercussions... Incroyable. Il y a des chiffres là-dessus, je pense qu'il y a 1 million, qu'on dit, je pense, de Chinois qui ont été sauvés à travers ça. Je n'ai pas les chiffres, je ne voudrais pas dire n'importe quoi, là. Mais ça n'a pas été en vain. C'est ça que je veux dire, ça n'a pas été en vain. La récompense a été grande, puis même, elle a été immédiate. Dieu était là, puis il leur a fait montrer, il leur a fait voir qu'il était au centre de sa volonté, dans son amour, puis Dieu s'occupait de nous. C'est ça que Dieu nous donne le matin. C'est ça que ça veut dire, ce qu'on a considéré ce matin. Qu'on n'ait pas peur, qu'on ait hâte de voir les trésors de sa grâce, peu importe le chemin qu'il décide de prendre. Merci Seigneur, tes voix sont insondables, puis j'ai essayé de communiquer un peu la tension que les disciples pouvaient avoir d'avoir peur, de ne pas comprendre, d'être totalement en dehors de tout ce qu'ils pouvaient expliquer puis comprendre. Mais Seigneur, tu étais là. C'est un moment saint et divin parce que, Seigneur, tu t'investissais en eux, tu leur as ouvert ton cœur. Il y a tellement de trésors dans ce passage, non seulement pour aujourd'hui, mais tout le discours de la Chambre haute. À la fin, tu as même prié une prière extraordinaire. Ah, Seigneur, tu avais les plus grands trésors pour tes enfants ici. Et qu'on voit que c'est pareil, qu'on n'ait peur de rien parce que dans ton amour, on est totalement sécure. Merci, Seigneur, quand même, on a référé à ça, mais... Ton serviteur que tu as permis qu'il meure puis que ça soit horrible, tout ça, maintenant, il est dans la félicité éternelle. Il est dans tes bras et il est dans la vraie vie. Son passage sur terre est terminé. On te prie pour sa femme, ses deux petites filles. On te prie pour les chrétiens, Seigneur, qu'on n'ait pas peur, comme lui, d'être bold, d'avoir de l'hardiesse. Pas dans l'humilité. Seigneur, savoir que tu es digne, qu'on se tienne pour toi, qu'on te proclame. Et Seigneur, c'est ce que ce monde a besoin. Besoin de Jésus, besoin d'entendre qu'au-delà de tout ce qui est ici-bas, il y a une bonne nouvelle du Rédempteur qui est venu, qui a tout accompli. Merci Seigneur, merci pour ta bonté. On se remet en tes mains au nom de Jésus. Amen.